Et nous allons maintenant donner la parole à Evelyne, Alain et François. Bonjour à vous, merci d'être là.
Bonjour.
Alors, en effet, c'est à l'automne que se votent les budgets de la Sécurité sociale, la loi des finances. Vous pointez le constat selon lequel l'augmentation des retraites de base ne suit pas du tout suffisamment, n'est pas indexée au coût de la vie. Sans compter le gel des pensions, des retraites complémentaires qui ont eu lieu depuis plusieurs années. Mais les retraités, loin d'être sans défense et sans ressources, s'élèvent pour faire valoir leurs revendications. Et c'est pourquoi nous les recevons aujourd'hui, notamment en vue de cette organisation de la journée du 1er octobre à 10h.
Oui, effectivement, les pensions baissent d'année en année. Depuis qu'elles sont indexées justement sur le coût de la vie, elles décrochent au fur et à mesure du SMIC ou même du salaire moyen. Donc, avec l'augmentation du prix de l'énergie, en particulier du pain, des pâtes, etc., la situation devient de plus en plus difficile. Donc, nous revendiquons une augmentation des retraites, un rattrapage des années précédente, plus l'indexation donc des pensions sur l'évolution du salaire moyen. On sait que le gouvernement, avec la communication gouvernementale, va mettre en avant la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, en disant qu'il y aura un gain de pouvoir d'achat, en particulier pour tout le monde et aussi pour les retraités. Mais seulement, cette mesure ne s'adresse qu'aux retraités qui sont propriétaires de leur logement. Donc ça en laisse quand même une très grande partie des 17 millions de retraités qui ne verront rien venir. Pardon. Des mesures ont été proposées qui ne sont pas encore votées, mais l'abattement des 10% pour le calcul d'impôt sur le revenu des retraités a été évoqué. Et ensuite aussi l'augmentation de la CSG et pourquoi pas de la CASA tant qu'on y est. Donc le 1er octobre, nous défilerons, nous nous rassemblerons pour demander une augmentation de nos pensions.
Merci beaucoup. J'ai noté également dans vos revendications une revendication intéressante qui est sur le fait de demander que la Sécu soit intégralement financée par les cotisations sociales. C'est certainement pour qu'elle puisse retrouver de l'indépendance et de la souveraineté sur ses missions, sur son budget.
En fait, c'est par rapport à la loi Grand Âge et Autonomie qui nous est promis depuis plusieurs années, qui concerne à la fois les personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi les handicapés. Et cette année a été votée la cinquième branche de la Sécurité sociale, censée financer cette loi, qui n'existe toujours pas, mais enfin... nous ne voulons pas de cette cinquième branche à part de la Sécurité sociale. Nous voulons que le financement de l'aide à la perte d'autonomie reste dans la branche maladie de la Sécurité sociale et que la Sécurité sociale finance cette perte d'autonomie à 100%.
D'accord, effectivement. Alors, cette loi Grand Âge, en quoi est-ce qu'elle consiste? Quand est-ce qu'elle a été annoncée?
Elle a été annoncée depuis de nombreuses années, particulièrement depuis 2019. Il y a eu le rapport Libo qui a énoncé 175 recommandations qui étaient intéressantes, mais qui a été oubliée. De nombreux autres rapports sont parus concernant l'isolement des personnes âgées, les logements des personnes âgées, etc.
Les
aides à domicile, etc. Mais on ne voit rien venir. Et ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes résolutions qui sont prises, mais aucun moyen financier prévu pour cela, hormis les assurances privées.
Ça fait plutôt office de vœux pieux annoncés de la part de de la sphère politique, mais qui ont très peu de chances d'être des promesses remplies.
Concrètes.
Ça a été reporté depuis Nicolas Sarkozy. Donc les lois sont reportées, donc c'est pas nouveau. Hein. En fait, il y a un financement qui vaut à peu près une dizaine de milliards d'euros pour financer la perte d'autonomie, et en particulier donc due à l'âge, la maladie et au handicap. Et aucun moyen de trouver cet argent, sauf aller le chercher dans la poche des gens qui sont des retraités, en fait. Donc nous, ce qu'on désire, c'est quelque chose de solidaire. Hein, c'est les aléas de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. S'il y a une perte d'autonomie, ça devait être pris aussi sur le budget de la sécurité sociale dans le cadre de la branche maladie.
Est-ce qu'il est envisagé une augmentation des cotisations sociales liées à cette branche de la sécurité sociale?
Bah, le gouvernement ne veut pas toucher aux impôts, ne veut pas toucher aux cotisations sociales. Il faut savoir qu'en France, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, les employeurs ont des exonérations de cotisations sociales. Ce qui n'arrange pas les choses, évidemment.
Des abattements auxquels ils ne sont pas forcés de
souscrire.
Tout à fait. Alors vous, contrairement à l'image qu'on se fait d'une désunion de la résistance, d'une désunion de la gauche, vous êtes représentant de plusieurs organisations différentes qui travaillaient ensemble. Comment se passe la coopération? Vous êtes le groupe des neuf, donc il y en a encore d'autres. Peut-être que vous pouvez m'en parler un petit peu de cette coordination.
Donc le groupe des neuf, c'est représenté par la CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaire, FGR, LSR et... Ensemble Solidaire, c'est ça?
C'est une association. Oui.
Là, pour ce mouvement du 1er octobre, s'est associé également un autre regroupement de retraités de la fonction publique, qu'on appelle le Pôle des retraités, qui regroupe les retraités de la Poste. La FGR y siège aussi. On y retrouve les retraités des officiers de marine, de la gendarmerie, de la police et des sous-officiers. Donc ça regroupe vraiment une grande partie de retraités et on travaille de plus en plus ensemble. On se réunit, disons que l'appel est national et il est décliné au niveau départemental. On se réunit pour voir quelles actions on met en place. Donc là, on a parlé des mobilisations du 1er octobre. Ça figurera comme des rassemblements cette fois-ci. On ne fait pas de défilé, on fait des rassemblements avec signature de pétition. Et je dois ajouter que l'après-midi, des délégations iront... On a demandé audience pour des délégations en préfecture à 14h30 pour déposer les pétitions et à 16h30 au conseil départemental pour également reparler de la loi grand âge et autonomie, puisque le conseil départemental est fortement partie prenante pour gérer l'action sociale au niveau des personnes âgées et handicapées.
Est-ce que vous pensez que vous aurez une oreille constructive dans ces entretiens?
Nous avons été maintes fois reçus on nous écoute, mais on ne nous entend pas.
Oui, alors c'est une des revendications que porte le groupe des Neuf aussi, dans lequel il y a des organisations syndicales et des associations, c'est ça son originalité, c'est d'avoir un vrai interlocuteur au niveau du gouvernement. Donc une de nos revendications très anciennes, c'est celle d'avoir un secrétaire d'État aux retraités dans le ministère du Travail. Parce que si on est à la retraite, c'est qu'on a travaillé avant. Mais pour l'instant, ça restait aussi là, lettre morte. Ça concerne quand même 17 millions d'habitants, c'est pas rien. Donc on espère pouvoir être entendu. Depuis 2014, on travaille à ça. Ça avance doucement, parce qu'il y a quand même en face des résistances, surtout financières.
Et il a dû être difficile également de monter des syndicats de retraités. Non, je connais pas l'histoire des syndicats... de retraités.
Ben, c'est-à-dire, en fait, tous les toutes les organisations syndicales ont soit une branche, soit qui représente les retraités. Alors, ça peut être à l'intérieur des syndicats eux-mêmes, à l'intérieur des confédérations, ou tout simplement des organisations de retraités en tant que telles. Et comme par exemple, ici, on a cité des associations. Concernant votre remarque de tout à l'heure, est-ce qu'il y a une difficulté particulière à travailler ensemble? En fait, il n'y en a aucune, puisque étant en prise directe avec les retraités qui, il faut le rappeler, ne sont plus dans les entreprises. Dans les entreprises, il est plus facile de les contacter, de les toucher, de les rassembler, de les faire bouger. Alors que, je parle des salariés, hein, bien sûr, alors que les retraités, ben, ils se retrouvent seuls, en fait. Hein. Et le fait qu'on ait 9 organisations, plus celles qui ont été citées tout à l'heure par Evelyne, qui aujourd'hui sont capables de travailler ensemble, c'est qu'on est vraiment bien en prise directe avec les besoins des retraités, et notamment des retraités qui sont dans le grand dénuement.
Oui, vous êtes sur des problématiques, des revendications très concrètes, hein, je les rappelle un petit peu. Donc la revalorisation, augmentation des pensions de retraite, des véritables négociations, comme Alain nous le rappelait, avec un référent, quelqu'un qui peut véritablement représenter, par exemple, un secrétaire d'État au ministère du Travail, etc. Un vrai interlocuteur. Des bulletins de pension et une retraite pour toutes et tous. Plus de moyens pour les services publics, oui. Ça va de soi. C'est dans les, j'allais dire, ce qui vous lie aussi, c'est qu'il y a des intérêts communs, évidents et concrets. Et là, ça touche les intérêts communs à tous. Une sécurité mieux financée par les cotisations sociales avec plus d'indépendance. Je voulais rappeler également les dates de mobilisation. Donc le 1er octobre à 10h, à Lens, c'est place du Cantin. À Béthune, c'est place Clémenceau. À Calais, à l'espace public des 4B. Et à Boulogne, c'est devant la sous-préfecture. Est-ce que pour cette journée de mobilisation, votre syndicat, vos syndicats, ont pu déposer une journée de grève, un appel à la grève?
Il pourrait y avoir effectivement un appel à la grève, mais bon, on sait que... Par exemple, dans l'éducation, le 23 octobre, donc hier, il y a eu des mouvements. Il y aura un mouvement...
Septembre, excusez-moi.
Le 5 octobre, il y aura un mouvement interprofessionnel. Donc, notre action se situe là. Donc, les retraités, par essence, ne travaillant plus, vont pas faire grève. Évidemment.
D'où ma question, en fait, c'était pour permettre évidemment. Aux salariés de vous rejoindre. Oui. En même temps, vous voulez peut-être pas surenchérir dans les journées de grève qui vont coûter à tous ceux qui vont le faire.
Sachant que tout salarié est un potentiel retraité, donc évidemment, ça concerne aussi les pensions d'aujourd'hui, mais les pensions de demain aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. L'indexation sur le salaire moyen, ça permettra à tout retraité de vivre correctement. On réclame aussi pas de pension inférieure au SMIC. Hein, sachant que le seuil de pauvreté, ressenti du seuil de pauvreté d'après le Secours populaire français, se situe juste en dessous du SMIC.
Mmh. Oui, je voulais d'ailleurs vous poser une question par rapport au nombre de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Est-ce que vous savez?
Alors oui, on chiffre à peu près... Alors c'est compliqué parce qu'il y a différentes... Il y a différents barèmes et puis voilà... 5 millions à peu près, hein, on considère qu'on tourne autour de 8%, ce qui est un des meilleurs taux européens, pour dire que dans les autres pays c'est pire. Donc, on tient aussi à ce que ce système de retraite qui permet justement de générer moins de pauvreté, hein, ce qui est surtout, alors on retrouve les pauvres, surtout chez les femmes, qui n'ont pas des carrières complètes, ou qui ne vivent que des pensions de réversion de leur époux décédé. Donc il y a vraiment des gens qui sont en très grande difficulté, et qui font appel de plus en plus souvent d'ailleurs au Restaurant du Cœur et aux aides communales.
Oui, c'est aussi les personnes qui ont eu des travaux au niveau du métier, travail, au niveau des métiers, avec moins de reconnaissance.
Il y a ça aussi, les carrières aussi.
Je voulais préciser que nos revendications, bien sûr, ne concernent pas uniquement les retraités, puisque on a parlé de la sécurité sociale, la protection sociale concerne tout le monde, et les services publics, la même chose, la défense des services publics, c'est pour l'ensemble de la population active comme retraitée.
Et dans ce contexte, on vient de vivre une crise sanitaire, on a encore de temps, où on a vu les services publics, les services de santé à genoux. J'ai du mal à trouver d'autres expressions parce que les soignants et soignantes ont fait des sacrifices énormes et continuent encore à en faire. C'est vrai que ces revendications qui sont importantes pour tous et toutes doivent être portées. Là, parce que c'était déjà important avant, et là, on a vraiment eu les conséquences et la vision concrète et directe de ce manque dans le service public.
Ce qu'il faut voir, c'est que les services publics ont tenu quand même pendant cette pandémie, mais ils ne vont pas tenir comme ça sans arrêt, et on va continuer à supprimer des services publics, des fonctionnaires, etc. Et la prochaine crise, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai une autre question qui est, à mon avis, que vous avez sûrement un point de vue sur la question de la retraite à points par rapport au système actuel.
Oui, alors la retraite par points, comment dire, le fait que le président de la République dise que chaque euro versé donnera la même chose, bon, c'est une vaste escroquerie, avec on va le dire comme ça, c'est un mensonge. Non, même pas d'inflation. Tout simplement, le système actuel de répartition des retraites permet de met en place des processus de solidarité, comme par exemple des trimestres supplémentaires quand on a élevé des enfants, le fait de prendre au régime général, sur une carrière, de prendre les 25 meilleures années, c'est-à-dire les années où on a été au chômage, il n'y a pas de sanction par rapport à la perception et au calcul de la pension. Par contre, si on est une retraite par points, où vont aller ces mécanismes de solidarité? Il y a aussi la réversion, hein, donc qui est une partie de la retraite du dernier conjoint vivant qui est reversée à l'autre. Donc on ne peut pas être sur un euro cotisé, donnera la même chose pour tout le monde, vu que les situations sont tellement diverses. Donc évidemment que cette retraite, nous n'en voulons pas. Parce que c'est une retraite qui va faire... Actuellement, on peut savoir combien on va avoir de retraite. Avec une retraite par point, la retraite par point, on sera dans la précarité complète. C'est-à-dire que la retraite dépendra de la valeur qui sera donnée au point à l'instant T.
Et qui pourrait être modifiée selon le temps politique.
Tout à fait.
D'ailleurs, concernant la fameuse réforme des retraites dont on parle et dont on a encore parlé aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu la remarque de Macron quant aux annonces qui ont été faites par Jean Castex, qui a fait remarquer qu'on ne pourra pas échapper à une réforme des retraites. Et ça, suite à l'information selon laquelle le déficit de la sécurité sociale ne sera pas aussi important que prévu l'an prochain. Mais derrière, ce qu'il faut lire quand même en filigrane de la déclaration de Macron, c'est que la réforme des retraites, à la limite, ils s'en foutent de l'âge de la retraite. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que toute cette manne financière puisse basculer dans le domaine privé, hein, parce que les assureurs n'attendent que ça. Hein, je crois que là-dessus, personne ne se trompe sur la volonté réelle de refonder la retraite.
Hein. Ah, le marché français est appétissant pour toutes ces mutuelles privées, etc.
Oui, on n'est plus dans le solidaire, que je disais, on est dans le projet individuel. Et pris en charge non pas par une caisse commune ou des caisses communes professionnelles, mais par un système qui va renforcer les inégalités et, à mon avis, renforcer la pauvreté chez les retraités si elle est vraiment appliquée. Mais bon, c'est pas encore gagné non plus pour le gouvernement.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu du CDCA?
Alors, moi, je siège au CDCA depuis 2017, depuis juillet 2017. Donc, c'est une instance qui regroupe les représentants des personnes âgées et des handicapés. Il y a deux collèges. Et on se réunit en séance plénière, selon la loi, au moins deux fois par an. C'est ce qui s'est passé. Mais pour nous, pendant 3 ans, on a été considérés comme une chambre d'enregistrement sur les textes qu'on devait adopter. On avait rarement, on recevait les textes en aval, en amont de la réunion. Donc on découvrait les textes le jour de la réunion et il fallait voter dans... On a réclamé pendant des années des commissions pour faire des dossiers, préparer des dossiers sur la mobilité, sur l'habitat, les EHPAD, l'état des EHPAD, etc. Et on n'a jamais rien obtenu, hormis en novembre 2020, on a fait une commission pour contribuer au Laroc de l'autonomie. Enfin, le Laroc de l'autonomie a été annoncé, il n'a jamais existé, mais nous, on a fait la contribution en donnant en faisant l'état des lieux de ce qui existait par rapport à cette loi grand âge et autonomie et nos préconisations, nos propositions qu'on a donc travaillé en novembre avec le groupe des neuf et puis tous ceux qui siègent donc au CDCE, les volontaires. On s'est réunis en distanciel 3 fois en novembre. Et on a proposé donc ce texte qui a été présenté au CDCA et puis ensuite envoyé au ministère, à la secrétaire d'État, Madame Bourguignon, secrétaire d'État au ministère des Solidarités. Et on n'a pas de nouvelles. Et puis là, donc, on était élus pour 3 ans. Avec la pandémie, ça a été reculé d'un an. Et en ce moment, on va refaire la composition. Ils ont fait appel à candidature. Ils ont traîné avec. On a été prolongé d'un an. On a été encore prolongé parce qu'il y avait des élections, donc ils avaient autre chose à faire. Et là, ils sont en train de refaire les appels à candidature. Donc, ça augure mal de la nouvelle loi grand âge et autonomie, parce qu'on pensait que s'il y avait une nouvelle loi, on aurait changé cette institution d'une manière ou d'une autre. Mais si on reconduit cette institution, c'est que la loi grand âge et autonomie est encore sous tapis.
CDCA, c'est le Conseil départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie.
Et nous, ce qu'on voudrait qu'il existe, c'est que la citoyenneté, elle fonctionne. À l'intérieur.
Et l'autonomie.
Oui, l'autonomie ou sur prise en charge correctement.
D'accord. Et je vous remercie beaucoup.
Merci.
Est-ce que vous avez un mot de la fin, une chose à ajouter?
Oui. Mobilisons-nous pour améliorer nos conditions de vie, les conditions de tout un chacun.
Vers quelle plateforme est-ce qu'on peut retrouver vos informations, vos documents?
Sur les sites des organisations.
Les Burbennes aussi.
Les Burburennes.
Il n'y a pas de site.
Les Burburennes, pardon.
C'est issu du groupe des neuf, mais le groupe des neuf, il n'y a pas de site, donc il faut aller sur chaque site de chaque organisation.
D'accord. Je vous remercie énormément pour votre courage, votre prise de parole et d'être venu à Micro Rebelle.
Merci.
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 Web radio indépendante de Bassamini, Micro-Rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.